BFM Business, l'info éco.
Dans un instant, c'est la suite de BFM Bourse, mais tout de suite, toute l'info éco avec Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
Bonjour Étienne, bonjour à tous. On commence avec ce début d'éclaircie pour Alstom. Pour Atos, le groupe constate des signes d'amélioration avec un chiffre d'affaires plus élevé que prévu et des prises de commandes au niveau financier. En revanche, le constructeur finit à nouveau son année dans le rouge. 309 millions de pertes plombées par son dérapage au premier semestre. Ce matin, le groupe a expliqué comment il compte mettre en œuvre son plan de désendettement de 2 milliards d'euros et ça passera par deux instruments financiers, une augmentation de capital d'un milliard d'euros et un emprunt obligataire hybride d'environ 750 millions. Amazon et Telefonica passent un accord inédit. Il portera sur le cloud. Telefonica Germany va transférer 1 million de clients 5G vers le service cloud de Amazon. L'objectif est de renforcer la présence européenne du géant américain du commerce en ligne. À noter que la démarche est une première mondiale car la tendance dominante pour les opérateurs de réseau est plutôt de transférer les activités informatiques vers des services en cloud public. 30 à 40% de la clientèle devrait être transférée d'ici fin 2026. AstraZeneca retire son vaccin contre le Covid, une décision qui fait suite au déclin de la demande. Le laboratoire dit vouloir conclure ce chapitre. Selon le groupe, plus de 43 milliards de doses ont été distribuées dans le monde. Après la France, Xi Jinping poursuit son voyage en Europe. Le président est en Serbie jusqu'à ce soir. L'objectif est d'approfondir les liens économiques avec l'un des pays les plus amicaux avec lui. La Chine a investi plusieurs milliards d'euros, notamment dans les secteurs miniers et manufacturiers. L'année dernière, Belgrade et Pékin ont même signé un accord de libre-échange. Direction Bruxelles à présent, l'UE tire de nouveau la sonnette d'alarme avec X à l'approche des élections européennes. La Commission a réclamé des explications sur sa pratique de modération de contenu. L'institution regrette une baisse de moyens déployée par le géant américain. Pour rappel, en avril, une enquête a déjà été ouverte contre X pour manquement à ses obligations de modération. Des procédures similaires ont été ouvertes contre Facebook et Instagram. On termine avec ce nouvel incident chez Boeing. Un Boeing 787-900 d'Air France reliant Paris à Seattle a dû atterrir en urgence dans le Grand Nord du Canada. En cause, une odeur de chaud ressentie dans la cabine. Selon une porte-parole d'Air France, les premières vérifications ne font remonter pour l'instant aucune anomalie.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Et c'est reparti pour BFM Bourse, on vous accompagne jusqu'à 18h avec un CAC 40 qui évolue dans le vert. Et c'est pas Aude Kersulec depuis Euronext qui va nous dire le contraire, puisque Aude, on a un CAC 40 dividende réinvesti qui est même sur des plus hauts historiques.
25 009 pour le précise. Et c'est vrai qu'on monte bien quand même pour la quatrième séance consécutive avec quand même une belle hausse parce qu'on s'approche des 1% de hausse, tout comme hier. Donc c'est vrai que la semaine est en partie fériée, les volumes sont faits, mais bon, ça se passe bien, donc on va pas se plaindre d'être là.
En effet, avec des valeurs qui sont au plus haut historique, à l'image notamment de Schneider Electric, on verra cela aux alentours de 16h30. La valeur hors CAC 40 qui cartonne aujourd'hui, c'est Alstom, c'est Thibaut François qui rentrera dans le détail de cette publication. La valeur gagne un peu plus de 5% aujourd'hui. Et puis la valeur ajoutée, ça sera dans un peu plus de 10 minutes avec notamment Trigano. Nos experts nous expliqueront pourquoi ils sont à l'achat sur cette valeur. Et puis on reviendra également sur les nombreuses publications du jour. Ruby hors CAC 40, du côté de Francfort, vous avez BMW qui a publié ses résultats, ou encore Toyota cette nuit. Secteur automobile, on verra qui dans le secteur du luxe souffre un petit peu, et surtout un secteur mobile qui a déçu lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. On l'a encore vu la semaine dernière avec Stellantis. C'est parti, c'est BFM Bourse. On est ensemble jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Aude, donc la tendance est positive à la Bourse de Paris, contrairement à Wall Street où on l'a vu avec vous il y a un peu plus d'une demi-heure, c'était plus hésitant. CAC 40 qui, ça y est, a vraiment envie de s'installer au-delà des 8000 points.
8150 points pour le moment. On n'est plus qu'à 1,6% du plus haut historique. On a moins d'une, on a une petite centaine de points de ce record historique atteint il y a quelques semaines. C'est vrai qu'on s'en approche assez fortement. Bah, cette semaine, on monte avec de belles variations. Alors, plus 0,9% à Paris. C'est un petit peu moins, tiens, du côté de Francfort, l'Allemagne. On a appris que la production industrielle allemande ce matin, bah, s'était repliée, hein, par rapport au mois de mars, hein, au mois de février, pardon, du mois de février au mois de mars, on est perdu 0,4%. On a le DAX qui sous-performe d'ailleurs un petit peu l'indice parisien, plus 0,3%, mais on le verra aussi dans quelques minutes. C'est dû au secteur automobile qui n'est pas en forme, hein, vraiment depuis quelques jours sur les marchés. En tout cas, à Paris, on a plutôt des valeurs défensives, hein, qui montent, AXA, Veolia. On est sur des hausses de plus de 2%, dire Schneider ou Airbus aussi qui prennent un petit peu plus de 2%. Et puis sur hors CAC 40, c'est évidemment Alstom, hein, la valeur du jour. On s'est même envolé de 10%, hein, ce matin sur la valeur. Maintenant, on a un petit peu ralenti, plus 5,4% à 16,50 €. Alors Alstom, on a eu la conclusion que le résultat net pour l'année dernière était dans le rouge, hein, moins 300 millions d'euros, mais le résultat d'exploitation, lui, il est positif, 997 millions d'euros. Il est en hausse de 17%, et pour une société qui vient de subir une si grosse acquisition, hein, Bombardier, durant les derniers exercices, c'est aussi ça qu'on regarde, cette progression du résultat d'exploitation et cette capacité aussi à générer de la marge. L'augmentation de capital, elle a été confirmée ce matin, 1 milliard d'euros, plus 750 millions d'obligations hybrides, mais tout ça finalement rassure peut-être un petit peu les investisseurs. Il y avait beaucoup d'attentes autour de cette valeur, et maintenant que l'annonce est faite, eh bien les investisseurs se repositionnent sur la valeur, donc plus 5,7%. En revanche, Ruby en repli, là c'était aussi des résultats, hein, moins 5% de chiffre d'affaires à paramètres constants, mais le reste de l'année, hein, devrait se passer correctement puisque l'entreprise a choisi de confirmer ses perspectives pour cette année. Cela dit, du côté du marché, c'est pas vu de la même façon. On perd 3,4%, donc à 31,32 € pour Ruby.
Vous restez avec nous, Aude Kersulec. Dans un instant, on parlera de BMW qui perd plus de 3% à Francfort. Mais juste avant, c'est Thibaut François qui nous accompagne par téléphone. Bonjour Thibaut. Vous êtes patron, vous êtes le président de Fastea Capital. Merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 8 mai. Bon, décidément, le marché n'a pas envie de baisser, hein, puisqu'on a un CAC 40 qui est à moins de 100 points de son plus haut historique. Si vous regardez le CAC 40 dividende réinvesti, là, il est au plus haut. C'est mérité ou pas aujourd'hui ce record en ce 8 mai ?
Écoutez, oui, ça se passe plutôt bien. Là, on arrive sur les fins de publication pour le premier semestre pour l'ensemble des bourses françaises. On s'est aperçu que les différentes publications étaient plutôt bonnes. Les objectifs ont été confirmés pour la plupart des entreprises, donc ça c'est plutôt bien. On a eu une grosse rotation sectorielle depuis quelques semaines. Depuis quelques années, on a donné...
Je suis désolé de vous couper, Thibaut, mais la liaison n'est pas très bonne. On va vous rappeler dans un instant. Aude, je vous disais, donc l'une des valeurs qui se distingue très nettement aujourd'hui en Europe, c'est BMW, après la publication de Mercedes la semaine dernière. Là aussi, c'est en dessous des attentes.
Oui, moins 4% pour la valeur là en ce moment à la bourse de Francfort. Fort repli pour le constructeur allemand, donc BMW, c'est BMW Mini et Rolls-Royce. Le chiffre d'affaires, 36 milliards d'euros pour le premier trimestre. C'est donc une baisse, hein, par rapport à l'année dernière, et c'est inférieur à ce qu'attendaient les analystes. Le bénéfice net a lui aussi reculé. 2,8 milliards d'euros, on était à 3,4 milliards d'euros l'année dernière. Et puis dernier élément qui a reculé, ça les investisseurs n'aiment pas, c'est la marge opérationnelle, 11,4% au premier trimestre, c'est 2,5 points de moins que l'année dernière à la même époque, donc c'est fortement sanctionné donc à Francfort, moins 4%, et d'ailleurs c'est tout le secteur auto qui est en repli, moins 1,5% pour Mercedes qui avait publié la semaine dernière, vous le disiez, et la plus forte baisse sur le marché parisien, on en parle quand même depuis quelques jours, c'est Stellantis, on est à moins 2,2%, 19,75 €. Et depuis un mois, on a perdu 20% tout de même sur la valeur.
Voilà donc pour ce cas de BMW qui perd du terrain aujourd'hui à Francfort. Si ce dossier vous intéresse, on en reparlera dans un peu plus de 20 minutes avec Julien Marion, notre journaliste BFM Business, qui fera un point sur cette publication de BMW, sur Toyota également, qui a déçu un petit peu les investisseurs cette nuit en Asie. Et puis également sur ce dossier Alstom, avec donc une augmentation de capital qui visiblement passe en bourse avec un dossier qui prend un peu plus de 5%. Alstom qui on le rappelle, était sur des plus bas historiques encore ces derniers mois, au point que le groupe était sorti du CAC 40. Le dossier qui était proche des 10 euros remonte très clairement aujourd'hui au-delà des 16 euros, avec une hausse d'un peu plus de 5%, 16,50 € précisément pour ce dossier Alstom. Merci beaucoup, Otker Sulek, de nous avoir accompagnés. Est-ce qu'on a retrouvé Thibaut François de Fastea Capital, avec qui on continue de suivre cette tendance? Thibaut n'est pas avec nous. Bon, bah c'est pas grave. Vous savez quoi, Thibaut, on retrouvera votre analyse, votre expertise dans un peu plus d'une heure, aux alentours de 16h25, avec également les équipes de Zone Bourse. Franck Morel qui sera également avec nous pour refaire la séance sur Alstom, sur Ruby, et puis également sur des publications majeures aux États-Unis que l'on a eues ces derniers jours, à commencer notamment par Disney, souvenez-vous, qui avait perdu un peu plus de 10% hier, ou encore Apple qui avait dévoilé des résultats qui avaient surpris, notamment en ce qui concerne le programme de rachat d'actions. Comme tous les jours, à 16h15, on vous propose une valeur, valeur ajoutée. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous. Aujourd'hui, c'est Marc-Antoine Barbet qui nous accompagne. On voit cela tout de suite.
BFM Bourse, valeur ajoutée.
Valeur ajoutée, donc, comme tous les jours sur BFM Business, aux alentours de 16h15, avec aujourd'hui Marc-Antoine Barbet qui nous accompagne, gérant Small et Midcap chez MCA Finance. Bonjour Marc-Antoine Barbet, merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 8 mai pour nous proposer de faire un point sur une valeur. Aujourd'hui, vous avez choisi Trigano.
Oui, bonjour Étienne. Alors effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler de Trigano. À l'approche des premiers beaux jours, je crois que vous le connaissez, hein, Trigano, c'est le leader européen des véhicules de loisirs, notamment sur les camping-cars, même s'ils ont aussi une partie sur les caravanes, les remorques et les autres équipements extérieurs. La société, elle a réalisé pour son exercice 2022-2023, puisque pour rappel, elle clôture en décalé à fin août, un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. La croissance, elle est assez régulière chez Trigano. Ça a été aidé par les acquisitions, notamment chez les concessionnaires ces dernières années, pour grappiller des parts de marché. Et si je vous parle aujourd'hui de Trigano, c'est surtout parce que la dynamique, elle est très bonne chez eux. La publication mardi prochain de leurs résultats semestriels devrait être de très bonne facture. Le chiffre d'affaires a déjà été publié, il est en progression de 18% et la société elle a déjà annoncé que la profitabilité serait meilleure ce trimestre par rapport au S1 de l'an passé, donc c'est plutôt de bon augure. Et ces bons résultats, ça s'explique surtout par une demande importante des primo-accédants sur leurs principaux marchés, que sont la France et l'Allemagne.
C'est un titre... Oui, pardon, allez-y.
Non, je disais, moi, ce qui me plaît sur la société, c'est que en fait, Trigano n'a pas de dette, elle a même près de 500 millions de cash excédentaires, ce qui représente aujourd'hui environ 18% de sa capitalisation. Et la société a donc un matelas de sécurité assez important qui peut lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance externe. Et quant aux marges, elles augmentent régulièrement pour atteindre plus de 12% de marge opérationnelle, ce qui ne fait que renforcer son bilan.
C'est une valeur dont on parlait beaucoup à la sortie des confinements. On se souvient que la reprise avait été très forte en 2020, 2022 et même 2021. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à cette valeur?
Alors justement, il y a un autre sujet d'actualité concernant Trigano. C'est l'attente de la validation de l'autorité de la concurrence pour le rachat de la branche mobilhome de Beneteau, qui s'appelle Biohabitat. Et cette branche, qui représentait un peu moins de 15% du chiffre d'affaires de Beneteau, pourrait permettre à Trigano d'ajouter un peu plus de 300 millions d'euros à leur chiffre d'affaires. Et si cette acquisition, ça se concrétise, ça va aussi permettre à Trigano de réaliser des synergies importantes, notamment pour l'approvisionnement auprès de leurs fournisseurs, puisque les métiers sont assez proches. Vous le voyez, la dynamique est assez positive chez Trigano. Et puis, sur la valorisation, elle est vraiment clairement attractive, hein, puisque le groupe affiche une décote historique de valorisation de plus de 40% par rapport à ses multiples de ces 5 dernières années, puisqu'on se paye aujourd'hui environ 5 fois son EBIT estimé pour l'année en cours. Et avec un PER de 7, un ROCE de plus de 20%, un free cash flow de 12%, la valorisation nous semble clairement attractive. Donc nous, on est à l'achat sur le titre, on vise 171 €, ce qui permettra dans un premier temps, on l'espère, de revenir vers un multiple de ROC de 8 fois, ce qui nous paraîtrait plus cohérent vu les fondamentaux de la société.
147,40 € à l'instant pour ce titre Trigano qui est en léger recul de 0,3%. Voilà donc pour les points positifs. Est-ce qu'il y a des points d'attention peut-être, Marc-Antoine Barbet, à avoir en tête avant d'acheter ce dossier Trigano?
Alors, il faut toujours avoir en tête que Trigano est quand même assimilé à la consommation discrétionnaire. Bon, aujourd'hui, la dynamique elle reste très bonne, puisque notamment portée par une demande assez importante sur les primo-accédants qui peut être un relais de croissance assez intéressant pour les prochains mois et les prochaines années.
Merci beaucoup Marc-Antoine Barbet de nous avoir accompagné aujourd'hui depuis MCA Finance. Vous êtes gérant Action Small et Mid Cap. Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business en ce mercredi 8 mai, donc pour un point sur Trigano.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On va sortir un petit peu de la bourse pour s'intéresser à d'autres types d'investissements aujourd'hui avec notamment l'ITA qui nous accompagne et son directeur des investissements, Pierre Schmidgal.
Bonjour.
Pierre Schmidgal, allez, merci de nous avoir accompagné, de nous accompagner aujourd'hui sur BFM Business. L'ITA.co, on rappelle, c'est une plateforme de financement participatif.
Exactement, pour permettre aux citoyens et aux investisseurs d'investir dans l'économie réelle à impact.
Avec donc plusieurs projets qui ont été menés ces dernières années avec des cas concrets dans l'associatif,
dans des tas de domaines, venture capital, dette privée et financement des infrastructures d'énergie renouvelable.
Et donc ça peut être une bonne alternative pour bien diversifier aujourd'hui ces investissements. Aujourd'hui on va faire un point sur l'industrie avec notamment un secteur en France qui souffre en partie, ça dépend comment on voit les choses, avec notamment Bercy qui a commandé un rapport sur l'avenir de la politique industrielle en France. Il est en cours de finalisation. Si on veut planter le décor, c'est un pays, la France, qui s'est beaucoup désindustrialisé, malheureusement, mais comme d'autres pays européens.
Exactement. Donc, ce que vous disiez est très vrai. La France est le pays qui a connu le plus de désindustrialisation dans les années 70. Et post-Covid, il y a un vrai regain de développer un outil souverain industriel. Et donc, ce rapport s'ancre dans le contexte, pour donner un peu plus un bref rappel, de la loi Industrie verte qui a été promulguée en octobre dernier et qui vise de faire de la France un leader européen de l'économie verte, de l'industrie verte, et de rehausser la part de l'industrie dans le PIB français de 10 à 15%. Donc, ce rapport montre des signaux assez positifs, effectivement, vu que c'est un vrai outil statistique pour l'État pour pouvoir mesurer le rythme d'ouverture d'usines dans le pays, sur le territoire. Et on recense 201 nouvelles usines créées en net en 2023. Donc 354 ouvertures pour 153 fermetures. Donc c'est un signal assez positif, d'autant plus que la France est encore en balance commerciale déficitaire et qu'il y a toujours une concurrence très forte de la Chine sur le domaine de l'économie verte dans des tas de secteurs. Après, le rapporteur précise également que les objectifs du gouvernement étaient assez ambitieux et ils pensent qu'ils sont inatteignables et ils prévoient davantage une hausse de 2 à 3% du PIB maximum sur une décennie.
Alors ça, c'est d'un point de vue global. Après, comme toujours, il y a des grands groupes, il y a des PME, des ETI industriels. Vous, c'est plutôt votre cible aujourd'hui chez l'ITA.co. Comment vous regardez aujourd'hui les besoins et puis aussi les freins des entreprises?
Oui, c'est une très bonne question. Donc nous, on essaie d'être très actifs sur le financement de la réindustrialisation également et de la transition et l'adaptation au changement climatique. Donc un premier frein au développement des industries aujourd'hui et de leur transition reste quand même le coût de l'énergie qui impacte quand même considérablement encore les marges et les résultats et le besoin d'investir plus massivement dans de l'énergie décarbonée. Le deuxième gros enjeu, c'est l'emploi et la formation. On recense, je crois, cette année 60 000 postes encore ouverts dans les secteurs industriels et ça pose plus largement la question de comment on repense les parcours de formation, d'employabilité, la question sociale en fait, de revalorisation également des salaires pour les métiers de l'industrie. Le troisième gros point, c'est aussi l'enjeu financier à deux échelles. Le premier, c'est comment on arrive à repenser un modèle d'investissement capitaliste, donc VC industriel, qui a été façonné ces dernières années pour les startups plutôt du numérique et du digital, pour pouvoir répondre à ces enjeux de l'innovation technologique de nouvelles ruptures. Et sur la partie plutôt PME et ETI, la question, c'est comment on développe des aides d'État et des nouveaux schémas financiers pour les accompagner dans leur transition, notamment décarbonation, en lien avec la stratégie nationale bas carbone, de leur chaîne de valeur.
Et par rapport à cela, on a un contexte qui n'est pas très favorable, avec, on le voit tous les jours, des taux qui sont élevés, avec aussi un ralentissement économique. On n'a pas la croissance des États-Unis. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas aujourd'hui ce secteur industriel. Comment aujourd'hui ces entreprises peuvent être aidées sous forme d'injection de capital et puis aussi sous forme de recrutement recrutement, sous forme de formation?
Oui, c'est une excellente question. Donc effectivement, le secteur industriel est devenu très stratégique en France parce qu'on pense qu'il peut être clé, notamment dans le cadre de la loi Industrie Verte, comme je disais, à la fois de pouvoir créer de la croissance économique et à la fois d'être un vrai levier de lutte contre le changement climatique et de transition écologique. Donc je pense que le premier point, c'est drainer davantage de financement. C'est dans le projet de loi. L'épargne citoyenne est un vrai levier aujourd'hui, avec une volonté via les plans d'épargne durable de drainer davantage d'investissements climatiques. Le deuxième levier financier, c'est effectivement les plans d'investissement étatiques, donc notamment le plan France 2030 qui a 54 milliards d'euros à investir pour des secteurs clés pour les décarboner via les innovations technologiques et la réindustrialisation. Le deuxième levier, c'est tout le chantier sur faciliter les accès aux fonciers et réhabilitation de friches industrielles. Ça, c'est un élément clé, un volet important de cette loi, avec des sites industriels qui ont été labellisés sites d'avenir pour des nouvelles industries, et également un projet de décarboner les 50 industries les plus émissives en France en gaz à effet de serre, qui représentent à peu près à elles toutes seules plus de 50% du poids carbone de l'industrie. Enfin, un dernier levier, c'est le verdir la commande publique, parce que la commande publique, c'est un levier hyper important en fait pour pouvoir inciter les gens et les fournisseurs à transiter vers plus de responsabilité carbone. Après, je voudrais juste rajouter, vu que ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur chez l'État, qui est hyper important, c'est que plus philosophiquement, se poser la question de la réindustrialisation, pour moi, c'est aussi de se redemander la question comment réussir à soutenir un système productif national dans un monde où en fait 6 des 9 limites planétaires ont déjà été dépassées, et dans un monde plus de rareté, où il faut changer notre rapport extractiviste. Et je pense que c'est très important parce que, comme je disais, les PME peuvent être un vrai levier, et la technologie plus verte, l'économie verte, est un vrai levier de transition. Mais il faut aussi se poser deux questions, je pense, qui sont cruciales. C'est un, faire face à notre responsabilité face à l'épuisement des ressources naturelles et arrêter de vouloir sans arrêt externaliser les impacts négatifs dans des pays étrangers. C'est une des vertus aussi de la relocalisation de l'industrie. Et la deuxième question forte, je pense, sinon c'est une fuite en avant permanente, c'est de se dire comment on repense le rôle des actionnaires et des capitaux pour financer cette transition, parce qu'il va falloir absorber un coût de la transition. Et c'est l'occasion de créer une troisième voie économique, une alternative, pour repenser le rôle des actionnaires et des dividendes plus classiques, en fait.
Et ça passerait comment? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'investisseur, il veut du rendement. Donc, si demain, vous lui dites qu'il y aura moins de rendement, il faut réussir à faire avaler la pilule.
Il y a toujours cette question du rendement. Donc, c'est toujours l'opposition entre ce qu'on attend d'un point de vue très court-termiste sur des habitudes de marché financier où on a de la rentabilité journalière pour les marchés cotés et plutôt à l'année sur les marchés non cotés. Je pense qu'il faut faire un mix assez intelligent entre subvention, aide d'État, prêt. Mais il y a effectivement une partie de cette transition qui doit être absorbée aujourd'hui par les détenteurs de capitaux. Pour pouvoir être sur des. On parle souvent de cycle de capital patient. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir rechallenger nos attentes d'un TRI habituel pour des fonds d'investissement à 5-7 ans, repousser des modèles plutôt sur 7-10 ans et avoir des vraies ambitions d'accompagnement de cette transition à l'adaptation climatique.
Et comment aujourd'hui, chez l'État, vous arrivez à prendre ce sujet en main?
Alors, chez l'État, on propose différents types d'investissements, comme je le disais, plutôt start-up, venture capital, investissement en action, mais également du financement en dette privée pour des PME et également pour des grandes ETI qui souhaitent aligner leur chaîne de valeur aux accords de Paris. Donc on essaie d'avoir une stratégie multi-actif de l'investissement non coté pour aider cette transition sociale et écologique.
Et en termes de primes de risque, comment ça s'arbitre aujourd'hui avec, c'est sûr, des taux notamment de la BCE qui sont au-delà de 4, donc forcément c'est compliqué peut-être pour certaines entreprises aujourd'hui de se financer à 10-15%, non?
Effectivement, il y a un enjeu de contrôle des taux, donc les marchés sont légèrement haussiers depuis la crise et les enjeux de hausse des taux. Donc tout dépend du levier et de l'instrument qu'on utilise, notamment obligataire. Après, nous, on essaie de promouvoir des produits assez vertueux où on met dans une prime d'impact un différentiel de taux d'intérêt qui est dû uniquement si l'entreprise ne réalise pas ou ne réussit pas sa transition. Donc c'est indexé à des indicateurs de mesures biodiversité, sociale ou carbone. Et ça permet aussi de faire effet de levier et de baisser un petit peu les taux tout en proposant un rendement risque intéressant pour les investisseurs.
Et comment aujourd'hui les PME, les ETI font pour répondre à ces critères environnementaux, d'ESG, parce qu'on voit déjà que dans les grandes entreprises, ce n'est pas évident. Alors, dans une PME ou une ETI d'une dizaine de personnes, enfin, c'est un travail colossal quand même, aujourd'hui, de faire des rapports, de publier des tableaux en calculant point par point ces émissions carbone.
C'est aussi une bonne question. Effectivement, il y a un poids assez lourd de la réglementation. Alors après, c'est relatif. Moi, je pense que c'est important d'être dans un état aujourd'hui, et notamment l'Union européenne qui essaie de réguler les marchés, parce que c'est forcément favorable. Et effectivement, il y a un enjeu d'adaptation globale des chaînes de valeur face à l'enjeu climatique et social qui nous attend. On voit pas mal d'innovations. Donc, il y a de plus en plus de services, de mesures, de biodiv, carbone, RSE, d'accessibles en solution SaaS, par exemple, aux PME. Il y a des nouveaux pôles d'innovation qui se créent sur des équipes internes de R&D, de mesures carbone. Il y a quand même pas mal d'innovations. Il y a une très bonne résilience aujourd'hui, je pense. Je suis pas persuadé qu'il faille voir les contraintes réglementaires comme quelque chose de négatif, en fait.
Et aujourd'hui, les entreprises arrivent à prendre ce virage, ça va, ça.
Il y a encore une différence entre entreprises cotées, ETI et PME, qui constituent plus de 90% du terreau français. Mais nous, enfin, je trouve ça assez positif. On est au contact au quotidien de chefs d'entreprise très engagés qui veulent justement repenser les modèles d'avenir. Donc c'est plutôt favorable. Oui.
Dernière question pratico-pratique, puisque vous êtes directeur des investissements chez Lita. Quelles sont aujourd'hui les opportunités offertes aux épargnants en termes de projets?
De projets, donc on a deux projets, notamment sur la plateforme en ce moment. Donc nous, Anti-Gaspi, qui résout un problème du gaspillage alimentaire. Donc c'est plus de 10 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés chaque année selon l'ADEME. Et donc eux, ils ont développé un service, donc des réseaux de magasins, 26 magasins à date, avec une marque en propre et de la distribution de marques de grande consommation, en revalorisant des invendus. Parce que l'enjeu important d'impact sur cette thématique, c'est que 56% du gaspillage intervient avant la phase de distribution. Donc ils innovent dans des nouveaux circuits de distribution de produits non consommés, à des tarifs plus abordables. Et donc là, on est sur du financement obligataire de cette société.
Donc là, c'est bloqué. Une fois que vous mettez votre argent dans ce projet, c'est pas liquide.
Il y a des taux d'intérêt. Alors, c'est bloqué 4 ans, en l'occurrence. Et on a un schéma de remboursement semestriel jusqu'à 4 ans.
Deuxième projet
plutôt en venture capital, l'investissement en action, donc Metamo, qui permet de réemployer du métal, un service complet en fait pour les gros constructeurs et pour les collectivités territoriales de récupération et revalorisation du métal, notamment sur des charpentes métalliques, et donc un vrai axe très important d'impact sur la décarbonation du bâtiment, parce qu'à date, il n'y a que 1% des déchets de chantier et de bâtiments qui sont revalorisés en France.
Et en termes de rendement, aujourd'hui, c'est quel type de rendement qui est offert sur ces...
Alors là, on est sur une stratégie d'investissement en actions. Donc, il y a une défiscalisation d'investissement avec l'IR PME. Et après, ça dépend des perspectives de croissance de l'entreprise et de ses schémas de développement futur.
Ok, très bien. Donc, deux projets que l'on peut retrouver sur lita.co. Merci beaucoup,
en tout cas,
Pierre Schmingal, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements de lita.co, oui. Et donc focus sur... ces projets et puis aussi les mesures qui sont mises en place pour essayer de réindustrialiser la France. Quasiment 16h30, très courte pause, et puis on se retrouve dans un instant. On fera un point notamment sur Alstom, c'est l'une des plus fortes hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris, qui gagne plus de 5% ce titre Alstom après la publication de ses résultats, et un plan notamment en ce qui concerne un capital d'un peu plus d'un milliard d'euros qui sera injecté dans les prochaines semaines.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Et c'est reparti pour BFM Bourse, on est ensemble encore pendant 1h30 jusqu'à 18h, et pour m'accompagner, c'est Julien Marion qui m'a rejoint. Bonjour Julien.
Ravi de vous retrouver, Étienne.
Plaisir partagé, vous êtes journaliste pour notre site BFM Bourse, avec un article qui est dédié aujourd'hui à Alstom. On verra dans un instant que c'est la plus forte hausse hors CAC 40, puisque malheureusement le titre est sorti de l'indice l'année dernière. Bon, ça se passe bien aujourd'hui à la Bourse de Paris, on verra dans un instant d'un point de vue technique avec Stéphane Sauduteil. Mais Julien, quand même, CAC 40 GR, dont on ne parle jamais, mais qui est sur des plus hauts historiques si on prend en compte les dividendes. Et hors dividendes, il est à 100 points de son plus haut, là, 8152 points, une hausse de quasiment 1% après avoir déjà pris 1% hier.
Non, mais vous avez raison, c'est le bon indicateur, parce qu'en fait, on est dans la saison des détachements de dividendes, donc forcément, si on parle des 8000 points, mais il faut peut-être plutôt regarder le CAC 40 GR. Bon, sur la tendance plus générale, en fait, on reste porté sur l'optimisme, sur les baisses de taux de la Fed. On est revenu à deux baisses de taux dans le consensus. Ça fait plusieurs jours que ça nous porte, et ça nous porte encore aujourd'hui, même s'il y a un très léger accès de sur les marchés américains, le CAC 40 se porte très bien. Bon, après, c'est aussi qu'on a des volumes qui sont extrêmement faibles. C'est normal, on est en jour férié aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mal.
1,1 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Stéphane Sauduteil nous accompagne, trader pour compte propre. Bonjour Stéphane.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 8 mai, hein, parce que c'est vrai que eh bien, même les jours fériés, la Bourse de Paris continue de coter. Bon, il se passe quoi là sur les marchés? Il y a des rachats de short, il y a des investisseurs qui se retrouvent sans short, j'ai envie de dire.
Écoutez, il y a pas beaucoup d'investisseurs hein, sur les marchés, mais c'est vrai que les quelques investisseurs qu'il y a sont plutôt optimistes. En fait, quand on prend un petit peu de recul sur un mois, et bien en fait, on évolue dans une phase un petit peu d'attente entre 7900 points en bas et puis 8150 en haut. Et là, on est en train de revenir sur cette borne supérieure. Alors, attention quand même, parce que ce manque de volume fait craindre peut-être un petit peu un retour en arrière en début de semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est toujours bon à prendre. On avait pris quasiment 3% en quelques jours. Hein. C'est quand même honorable, très honorable pour le signaler. Alors, est-ce qu'on va être capable de s'installer en clôture au-dessus des 8150? Si tel est le cas, eh bien, on pourra peut-être viser un peu plus haut, c'est-à-dire 8200, voire 8250, la zone de point haut annuel. Rien ne l'empêcherait d'aller jusque là-haut, sauf si le retour des opérateurs lundi en décide autrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste toujours un petit peu dans cette phase d'attente. On tourne autour des mêmes niveaux hein, depuis un mois et demi. Donc voilà, rien de vraiment nouveau. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Et puis hier, hein, avec cette belle séance, voilà, le CAC 40 revient sur cette première zone de résistance autour des 8150.
8150 à l'instant, et donc il est à 103 points de son record historique qui avait été touché. Une hausse qui est entretenue notamment par AXA, hein, qui est la plus forte hausse de l'indice parisien, plus 2,5% à 33,44, avec l'assureur qui a annoncé un programme de rachat d'actions de 1,8 milliard d'euros. Vous avez également Veolia qui gagne plus de 2%, Vinci plus 2%. À l'inverse, Stellantis perd 2%. On verra dans un instant pourquoi, hein, Julien, hein, secteur automobile qui est un petit peu sous pression avec BMW. Et puis alors, Stéphane, un mot quand même d'une valeur qui est sur un plus haut historique aujourd'hui dans le CAC, c'est Schneider Electric avec la valeur qui a touché les 227 euros. Alors là, j'imagine que techniquement, c'est superbe, hein, Schneider Electric, un groupe qui n'en finit plus de toucher des records historiques. Hein, c'est très propre hein, en termes de graphique.
Oui, oui, c'est vrai que la tendance haussière est très bien ancrée. En fait, on a déjà gagné depuis octobre dernier, cette dernière phase de consolidation, 68%, donc c'est exceptionnel. Et puis, on était un petit peu en phase de consolidation depuis le 18 mars dernier entre 204 et 219, et puis là on est passé au-dessus de 219, donc ça ouvre encore un potentiel de hausse supérieur sur le titre hein, vers 234 euros. On est à 226,80 à peu près, donc il y a encore hein, un potentiel de hausse sur cette excellente valeur, vraiment valeur à mettre en fonds de portefeuille à chaque fois qu'on revient un petit peu en arrière.
Et comme quoi les valeurs chères peuvent devenir, Julien, pas de plus en plus chères, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait des années que j'entends Schneider, c'est cher, ça se paye 25 fois les profits, et ça n'en finit plus.
Je suis entièrement d'accord. L'autre exemple, c'est Hermès. Hein. Hermès, ça fait des années, même lorsqu'ils sont entrés sur le CAC 40, il me semble que c'était en 2020, si je vous dis pas de bêtises, Hermès, on disait, c'était cher. Sauf que ça continue de monter. Et ça continue aussi de publier des résultats qui sont parmi les meilleurs, ou si ce n'est les meilleurs du secteur, Hermès. Donc vous avez raison, en fait. C'est pas parce qu'une valeur est chère qu'elle ne monte plus.
Et on le voit encore avec Schneider Electric, et puis surtout c'était frappant lors des résultats avec Legrand, hein, le grand écart qu'il y avait entre Legrand et Schneider Electric avec le virage technologique qui a été pris par l'entreprise. Stéphane, je parlais il y a un instant de AXA. Bon, bah c'est vrai que là le programme de rachat d'actions booste la valeur hein, puisque c'est la plus forte hausse du CAC 40. AXA, bon là on n'est pas sur des records historiques, mais là aussi très beau parcours depuis le début de l'année.
Oui, c'est vrai que AXA, dans une moindre mesure, hein, avec une volatilité un petit peu moins forte, ce parcours ressemble un petit peu à celui de Schneider. Bon, on n'a pris que 28% depuis octobre dernier, mais bon, ça reste quand même une belle progression. Là, on était également en phase de consolidation depuis le mois d'avril, entre 33 et 31, et puis on est passé au-dessus de 33, donc là aussi, on a un potentiel de hausse vers 35, 36, peut-être même 38, hein, à court début, moyen terme. Donc, très belle valeur également. C'est vraiment une tendance très nette, très lisse, très propre.
Julien, envie de réagir?
Non, c'était juste pour... pardon, je vous ai dit une bêtise. Hermès est entré au CAC 40 en 2018, pas en 2020. Ah. Je me permets. prendre.
Merci Julien pour cette précision. Stéphane, vous restez avec nous puisque dans un instant, vous allez nous donner votre point de vue graphique, technique sur Alstom. Mais juste avant, eh bien, Julien, on va revenir avec vous sur cette publication parce qu'il y a de quoi dire quand même sur Alstom, que ce soit sur les résultats, mais aussi sur le projet de recapitalisation. En tout cas, aujourd'hui, la nouvelle passe très bien puisque vous avez ce titre Alstom qui prend 6,8%, très volatile.
Oui, c'est très volatile. Alors, évidemment, les volumes sont faibles et c'est ça qui explique la volatilité en partie. Mais le plan de désendettement d'Alstom a été dévoilé. Il y a notamment 1 milliard d'euros d'augmentation de capital prévu. Alors, pourquoi le marché n'a pas peur ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que les annonces, en fait, finalement, elles sont en ligne avec les attentes. C'est notamment ce que nous dit Morgan Stanley. Il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est ce que nous dit également un intermédiaire financier. Et du coup, avec cette absence de mauvaise surprise, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas peur. Et du coup, les investisseurs short, c'est-à-dire ceux qui vendent à découvert l'action en empruntant l'action, eh bien, ils disent si les mauvaises nouvelles sont passées, eh bien, il faut déboucler la position. Et ça contribue au courant acheteur qu'on observe. Voilà notamment pourquoi vous avez une telle volatilité, pourquoi vous pouvez avoir une hausse alors que finalement, c'est ce qu'on attendait, plus ou moins.
Avec notamment eh bien, une augmentation de capital et puis aussi un groupe qui a annoncé plusieurs cessions, on s'en souvient ces derniers mois, tout ça dans l'objectif de désendetter le groupe.
Tout à fait, vous avez raison. Donc les cessions, elles ont déjà été réalisées ou elles ont été annoncées. C'est le cas pour la signalisation ferroviaire, une partie de la signalisation ferroviaire en Amérique du Nord. Ça rapportera 700 millions d'euros total. Vous ajoutez aussi à cela en fait, ce qu'on appelle de la dette hybride à 750 millions d'euros qu'ils veulent émettre dans les prochains mois. Et ça, c'est considéré à moitié comme du capital par les agences de notation. Et vous l'avez dit, l'idée, c'est de se désendetter. Au total, c'est 2 milliards de dettes en moins. Et d'ailleurs, Moody's aujourd'hui a, et c'est une bonne nouvelle, confirmé la note de crédit. Ils ont même dit qu'ils relèveraient la perspective à stable si Alstom va au bout de son programme de désendettement.
Et pourquoi aujourd'hui c'est si important cette note de crédit d'Alstom ?
Alors ça, Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, l'a très bien rappelé lors d'une conférence avec des journalistes. C'est clé. Pourquoi ? Parce que ça permet de se financer à moindre coût, mais ça permet aussi d'avoir accès à davantage de garanties. Et ça, c'est une exigence des clients dans les contrats commerciaux d'Alstom. Donc c'est la compétitivité sur les appels d'offres en fait.
Les résultats, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous ? C'est du rouge toujours, c'est des pertes pour Alstom, mais c'est mieux que prévu apparemment.
C'est ça, je vais nuancer. Non mais écoutez, en vrai c'est pas si mal quand vous regardez dans le détail. Vous avez raison, sur l'ensemble de l'exercice, Alstom a brûlé un peu plus de 550 millions d'euros de cash, mémoire est bonne, mais sur le second semestre, le cash il est revenu dans le vert à 562 millions d'euros et ça c'est plus que prévu par les analystes. Quand on regarde dans les détails, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont aussi supérieurs aux attentes. Donc la copie est globalement bonne du point de vue des résultats. Par ailleurs, je suis plus dans le ressenti personnel quand je vous dis ça. Et moi, j'ai écouté la conférence analyste. J'ai trouvé que la direction a donné plus de détails et même beaucoup de détails sur comment est-ce qu'ils font pour mieux contrôler le cash, ce qui est un peu le nerf de la guerre chez Alstom, pour réduire les stocks, dans le pilotage, la coordination entre les services opérationnels et financiers. Ils ont créé ce qu'ils appellent un cockpit de cash en octobre. Voilà. Et ça, je trouve, de mon point de vue, que c'est plutôt encourageant.
Avec notamment une direction qui a été remaniée et qui va encore être remaniée chez Alstom, avec l'arrivée de l'ancien patron de Safran, qui va devenir président du conseil.
Oui, Philippe Petit-Collin qui deviendra président, comme vous l'avez dit. Alors, Philippe Petit-Collin au conseil d'administration et Bernard Delpit à la direction financière. C'est l'ancien DG et l'ancien directeur financier de Safran. Donc, c'est Safran un peu. On retrouve la direction de Safran. Et les deux, sincèrement, c'est pas good cop, bad cop, c'est deux dirigeants qui ont une certaine poigne, si vous voulez, mais qui étaient très appréciés chez Safran par les investisseurs pour une exécution opérationnelle vraiment remarquable.
Avec Safran qui est sur des plus hauts historiques, et donc Henri Poupart-Lafarge, qui est PDG du groupe, va voir son poste splitté.
Oui, ça arrive, c'est une scission. C'est une scission, c'est généralement apprécié par les investisseurs quand vous faites ça. On se rapproche du modèle anglo-saxon.
Stéphane Sauduteil, vous êtes toujours avec nous. D'un point de vue technique, comment ça se passe pour ce titre Alstom, qui a vécu une descente aux enfers? Et puis, depuis les 10 euros, qui connaît un parcours spectaculaire, puisque le titre a pris plus de 50% en l'espace de quelques mois.
Oui, c'est vrai que la descente en enfer avait été assez sévère, puisqu'entre juillet 2023 et décembre 2024, on était passé de 28 à 11, on a perdu 60%. Le titre va beaucoup mieux depuis le débordement de 12,50 €. Là, on est autour des 16,50 €. Je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse. On pourrait reprendre presque la moitié du terrain perdu. Alors, reperdre la moitié du terrain perdu, ça voudrait dire remonter vers 20 € à peu près. Donc, je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse sur le titre. Donc, je pense que tout accès de faiblesse vers 15, 50, 16 peut être l'occasion de d'acheter un petit peu du titre, alors modérément, parce que ça reste un titre très très volatile, hein, pas peut-être à mettre entre toutes les mains, mais c'est vrai que ceux qui croient dans le titre, je pense qu'il y a vraiment un potentiel peut-être vers 20 euros.
En tout cas, on vous a posé la question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Vous, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business, Alstom va lancer une augmentation de capital. Faudra-t-il souscrire ? Faudra-t-il, en effet, parce que pour l'instant, elle n'est pas lancée, hein, Julien.
Non, tout à fait. C'est d'ici à septembre. Normalement, c'est donc septembre au plus tard. Ça dépendra un peu des conditions de marché. Maintenant, faut-il souscrire ? Écoutez, en tout cas, les actionnaires principaux d'Alstom, qui sont BPI France et surtout la Caisse dépôt et placement du Québec, eux ont décidé de remettre au pot pour ne pas se faire diluer. Donc à vous de voir si vous croyez au potentiel de redressement maintenant qu'on a le gros est passé, ça peut être une bonne chose ou pas.
Il faudra voir les conditions avec la décote, ouais. Avec tout ce qui se passe en fonction des DPS, des droits préférentiels de souscription. Pour l'instant, nos auditeurs, téléspectateurs sur Twitter ont plutôt dit non. Hein, c'est le non qu'il a emporté à 59% sur cette question. Donc, faut-il participer à l'augmentation de capital ? Non. Avez-vous répondu sur Twitter ? Voilà pour ce dossier Alstom. Un mot à rajouter peut-être dessus, Julien ?
Non, pas forcément. Mais encore une fois, je trouve que la prise de parole de la direction a été particulièrement dense et plus détaillée, si vous voulez. Ça, c'est un élément pas vraiment tangible, mais qui peut donner une certaine chose. Et puis, on est sur des rachats de short, hein. C'est aussi pour ça, comme j'ai dit, hein, c'est pour ça que le titre augmente. Et on reste aussi sur une entreprise qui a des perspectives commerciales qui sont bonnes. Ça, il faut aussi le rappeler.
Avec un carnet de commandes qui est là, mais le tout maintenant, c'est de gagner de l'argent sur les livraisons. C'est vraiment le défi de la direction qui est en place. Et donc, ce titre Alstom qui gagne quasiment 7% à 16,73 €. Dernier point, Stéphane Sauduteil, et puis après, je vous libère, mais quand même un mot sur une autre valeur que vous avez repérée aujourd'hui pour nos auditeurs, téléspectateurs, c'est Essilor Luxottica qui avait publié ses résultats ces derniers jours. Là aussi, on était sur une valeur qui affichait un très beau parcours.
Oui, c'est vrai. Là, je pense que c'est une valeur de fonds de portefeuille par excellence, une valeur de père de famille, on pourrait presque dire. C'est vrai qu'on a donné un très très beau signal en passant au-dessus de 185 € dès le mois de février. Et ça, on était engagé en fait dans un triangle symétrique de long terme, hein, depuis 2021. Donc, techniquement, le potentiel de hausse à la sortie de ce triangle, c'est entre 230 et 240 €. Donc, on est autour des 204, un peu en dessous de 205 €. Donc, je pense qu'il y a encore un vrai potentiel de hausse. Alors, peut-être pas immédiatement, hein, mais un potentiel à moyen début long terme d'au moins 20% sur le titre. Donc, vraiment un très, très beau titre, je pense. Ne pas hésiter à l'acheter sur repli également. On peut aller même entre 185 et 200 pour essayer d'investir dessus. Voilà, très très belle valeur.
Et un titre qui est quasiment stable aujourd'hui à 204,50 €, Essilor Luxottica. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, trader pour compte propre, de nous avoir accompagné sur BFM Business. On vous retrouvera dans un peu moins d'une heure au fixing, juste après la clôture. Pour l'instant, ça se passe très bien à la Bourse de Paris, avec un indice qui est à 100 points de son plus haut historique, à 8146 points, une hausse de 0,88%. Voilà ce qu'il en est pour le CAC 40. Du côté des autres indices, c'est notre chiffre du jour. Aujourd'hui, mon cher Julien, un chiffre magique qui a été touché sur la bourse d'Amsterdam.
Oui, la VIX, l'équivalent du CAC 40 là-bas, quelque part, même s'il n'y a pas forcément 40 valeurs, a dépassé les 900 points hier, et je crois qu'il les maintient pour le moment d'ailleurs.
En effet.
Je crois qu'il est en très légère hausse, hein, de mémoire. Donc la bourse d'Amsterdam a un plus haut. On rappelle, la bourse d'Amsterdam, ce n'est pas du tout un boursier. Hein. C'est la capitalisation boursière cumulée de la bourse d'Amsterdam, elle est supérieure à celle de Milan, hein, juste pour donner un exemple. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'important, et c'est notamment dû à le grand poids lourd de la bourse d'Amsterdam, ASML. Dans l'univers des semi-conducteurs, alors eux, ils font pas tout à fait des semi-conducteurs, ils font ce qu'on appelle de la photolithographie. C'est un processus de haute technologie qui est indispensable pour la conception des semi-conducteurs. Et ASML, c'est la troisième capitalisation boursière européenne avec 336 milliards d'euros. Il n'y a pas qu'ASML. Je vous cite quelques groupes un peu connus. Heineken, vous aimez la bière ?
On va parler avec Abin Bev.
Exactement. Mais vous aimez la bière. Vous venez du Nord. Je plaisante.
Oui, non, évidemment. Je suis ch'ti, c'est vrai.
Une petite plaisanterie. Universal Music Group, hein, introduit en 2021, évidemment, grande maison de disques. Adyen, vous rappelez, une ancienne star de la côte, qui est un peu déçue dernièrement, qui est un grand spécialiste des paiements et un peu un concurrent de Worldline. Ou on peut aussi citer Ahold Delhaize, qui est un peu connu parce que c'est un distributeur.
Et puis il y a pas mal de double cotations aussi, avec Stellantis. qui est coté à Amsterdam. On a Vivendi avec le split hein, qui a été fait sur notamment Universal Music Group, si je ne me trompe pas, qui est à Amsterdam.
Alors Universal Music Group, comme je vous le disais, est effectivement à Amsterdam, hein, monsieur. Et d'ailleurs, donc, on a prévu d'écrire sur Universal Music Group, mais je ne vous en dis pas plus.
Quel teasing. Bon, en tout cas, voilà, 900 points, record historique pour la bourse d'Amsterdam, qui est aujourd'hui en légère hausse de 0,1%. Elle sous-performe un petit peu la bourse de Paris, avec notamment Stellantis qui pèse sur la tendance, avec notamment les résultats de BMW hein, qui ont douché les esprits. C'est ce qui explique la baisse de Stellantis aujourd'hui. Décidément, Julien, c'est compliqué hein, pour ce secteur automobile. On se souvient que Stellantis avait perdu 10% lors de la publication de ses résultats. La semaine dernière, il y avait Mercedes qui avait déçu sur la branche luxe. Et là, aujourd'hui, BMW qui perd 3-4% à Francfort.
Oui, pour revenir un peu sur BMW, qu'est-ce qui fait mal ? C'est la marge opérationnelle dans l'automobile qui est inférieure aux attentes. Ils ont publié une marge de 8,8%. Le consensus était à 9,2%. C'est un petit raté, mais ça suffit pour subir une correction, en fait. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, Mercedes... C'était ça aussi. Pourquoi ils avaient reculé la semaine dernière ? C'est parce que la marge opérationnelle automobile était décevante. Mais elle était plus décevante que dans le cas de BMW. L'écart était plus gros et en plus c'était inférieur à leurs propres attentes et pas seulement au consensus. Donc là, vous avez tout l'automobile allemand qui fait pas une bonne saison de résultats parce que Volkswagen aussi avait reculé. C'était pas bon non plus, notamment du côté des marges premium, notamment Audi et Porsche qui étaient relativement faibles. Et vous avez évoqué Stellantis, c'est un petit peu différent parce qu'il y a moins, enfin ils ont Maserati, ils ont des gammes premium, mais c'est beaucoup plus large. Ce qui avait fait chuter Stellantis, on va le rappeler, ça a été le call. La directrice financière qui vous dit, la marge opérationnelle courante au premier semestre, c'est entre 10 et 11%. Un an plus tôt, elle était à 14%. Donc là, c'était quasiment, on avait appelé ça un profit warning live. Puis surtout, elle avait envoyé un commentaire négatif sur l'Europe. Elle dit que c'est un marché difficile où le pricing, les prix sont sous pression. Donc ça avait fait assez mal à l'action. Mais c'est vrai que c'est pas un très bon trimestre pour l'automobile. Et Renault, qui avait fait une petite baisse après ses revenus, finalement s'en tire bien quand on regarde les autres.
Avec aussi une base de comparaison qui est plus facile pour Renault, dans le sens où ils viennent de loin.
Là, je ne vous rejoins pas totalement, Étienne. Quand on voit le bond de l'action Renault avant la publication du premier trimestre, il y avait quand même, le marché commence quand même à revenir sur Renault, à se dire, tiens, il y a quelque chose à jouer sur Renault avec toutes ces sorties de véhicules, avec une bonne, avec des perspectives sur les marges qui sont assez claires chez Renault aussi. Il faut leur laisser ça. Je partage pas tout à fait votre point de vue.
Bon, en tout cas, ça montre que c'est des valeurs cycliques, on le voit bien, une nouvelle fois, et que là, face au ralentissement économique qui est en cours en Europe, sachant que c'est des groupes qui sont quand même assez européens, à la différence de Stellantis qui est très implanté en Amérique du Nord, mais c'est compliqué, notamment pour le secteur du luxe. On se souvient notamment de l'introduction en bourse de Porsche. Bon, finalement, c'est pas ça.
Porsche, c'est assez intéressant parce que Porsche, si vous voulez, oui, on va parler de Ferrari dans pas longtemps, mais la question, c'est est-ce que c'est une valeur de luxe ou pas ? Parce que Ferrari, c'est Hermès, on va le dire très clairement, c'est plus associé à Hermès qu'à un groupe automobile. Porsche, c'est moins vrai. On avait écrit un papier là-dessus. En fait, Porsche, c'est peut-être plus proche de Mercedes que de Ferrari. Et Porsche, toute l'idée, c'était de voir qu'en fait, c'est pas tant les volumes qui les portent. C'était ça un peu le discours de direction, je caricature, mais pas tant que ça finalement. Et surtout, ils souffrent beaucoup en Chine. C'est un secteur difficile pour l'ensemble des constructeurs européens qui sont présents, donc pas Renault et pas vraiment un peu, mais pas tant que ça. Mais pour BMW, Porsche, c'est compliqué en Chine.
Et on l'a encore vu avec Tesla hier, avec des livraisons qui étaient en baisse de l'ordre de 20% en Chine, marché qui est très concurrentiel avec l'arrivée des constructeurs locaux. Puisque vous parlez, tiens, de Ferrari, c'est l'objet de notre Factor X avec un tweet de John Plassard qui a retenu votre attention, Julien.
Oui, tout à fait. Alors ce tweet que je n'ai pas sous les yeux, mais je m'en souviens, c'est tout simplement en fait, Ferrari dégage beaucoup de revenus par voiture vendue. Ah voilà, très bien. Et ils ont regardé en fait combien de voitures doivent vendre les concurrents de Ferrari, les autres constructeurs, pour arriver au même nombre que Ferrari. Alors ça va de 5,2 voitures pour Porsche jusqu'à plus de 100 pour Nissan et Suzuki. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le revenu tiré par voiture chez Ferrari, il est simplement extraordinaire. J'ai regardé au premier trimestre, en fait, si vous prenez l'ensemble des revenus de Ferrari, c'est 440 000 euros par voiture. Et si vous prenez juste la division automobile et pièces détachées, c'est 380 000 euros par voiture.
Le chiffre d'affaires par véhicule.
Le chiffre d'affaires par véhicule, ouais. Et vous voulez savoir peut-être comment on explique ça ?
Bah oui, parce que tous les Ferrari ne valent pas 300 000 euros.
Non, en fait.
C'est un panier haut quand même.
En fait, ce qui explique notamment, et ce qui explique aussi que Ferrari a réussi à monter son chiffre d'affaires alors que les volumes étaient stables au premier trimestre, c'est la customisation. En gros, est-ce que vous avez envie d'acheter une Ferrari, Étienne ?
Non.
Bon,
pour l'instant. Bon, on va dire que oui, quand je veux acheter une Ferrari.
C'est fini. Oui. Mais en gros, vous allez acheter votre Ferrari, il y a le modèle standard, mais vous allez la personnaliser. Et c'est ça qui fait le revenu. Vous allez vouloir que la boîte à gants soit comme ça, que le coloris soit comme ça. C'est cette personnalisation qui fait que Ferrari arrive à engranger des revenus, des marges sur les voitures. C'est la customisation qui fait le levier de Ferrari. Et c'est ça qui fait la progression du chiffre d'affaires. D'ailleurs, je parle de Ferrari, mais hier, la publication n'avait pas été méga bien reçue, si vous vous souvenez, Étienne.
Oui.
Et pourquoi? Parce que les résultats étaient finalement juste un peu au-dessus du consensus et surtout, ils n'avaient pas relevé leur perspective. Or, ce que nous disait Royal Bank of Canada, c'est qu'il était fort possible que certains investisseurs s'attendaient à ce qu'ils le fassent dès maintenant, qu'ils relèvent leur perspective. C'est pas venu, bon ben on sanctionne, surtout que Ferrari ça progresse pas mal en bourse, hein. Je crois que c'est plus de 27% depuis le début de l'année.
Et le titre qui a perdu 4,7% hier se stabilise aujourd'hui à Milan à 378 euros, avec en effet une valeur qui se paye plus de 45 fois les profits, hein. C'est un petit peu comme Hermès, donc ouais. Le marché est très exigeant sur ce type de valeur, et donc si ce facteur X vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver ce tweet sur le compte de John Plassard, et donc des statistiques très intéressantes sur une comparaison. Alors bon, c'est pas grossier, mais c'est vrai que ça montre
non,
un petit peu.
Non, mais c'est vraiment juste à titre d'illustration.
Voilà, c'est à titre d'illustration.
C'est pas parfait, parce que tous les revenus, tous les voilà. Ferrari ne fait pas que des revenus sur les voitures. Il y a un peu il y a des produits dérivés, mais le gros, c'est quand même sur les voitures et les pièces détachées.
On parle quand même d'une valeur. Vous qui aimez le foot.
Ah oui.
Mon cher Julien, avec un match hier du PSG qui a été compliqué face au Dortmund, mais la valeur aujourd'hui monte en bourse de plus de 4%.
Ah, c'est la valeur c'est Dortmund qui monte en bourse, hein. Oui. Faut pas s'y tromper, hein. C'est plus 4%. Mais puis on était à plus 9 quand j'ai fait le papier, hein. C'est aussi très volatile, hein. Bon, pourquoi est-ce que Dortmund ça monte en bourse? C'est simplement parce que quand vous passez un tour de qualification en Ligue des Champions, vous gagnez plus de revenus. Je crois qu'on est à 15 millions d'euros selon nos confrères de RMC Sport qu'on salue. Et 15 millions d'euros, c'est pas négligeable pour Dortmund. Dortmund, le chiffre d'affaires sur le dernier exercice publié, donc je crois que c'est de 2021-2022, c'est 400 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est pas gigantesque, mais c'est loin d'être anodin. Et puis évidemment, vous avez aussi le marketing. Vous connaissez Dortmund maintenant. Je sais pas si vous connaissiez Dortmund avant, j'imagine.
Non, mais après, moi, je suis pas un spécialiste du foot, alors je pense que je suis pas la bonne personne à interroger.
Après, c'est pas un nain du football. Dortmund, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions en 97, ils étaient finalistes en 2013. Mais voilà, c'est un club allemand. D'ailleurs, plusieurs clubs sont cotés en bourse. Vous avez l'Ajax Amsterdam, qui d'ailleurs avait été porté en bourse en 2019 après un bon parcours en Ligue des Champions déjà. Vous avez la Juventus de Turin et Manchester United, ça, j'imagine que vous connaissez.
Oui.
Qui sont cotés.
Et puis, on avait l'Olympique Lyonnais aussi, qui était coté à Paris.
Oui.
Et qui a fait l'objet d'une OPRA, d'une OPA, hein, il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui. Bon, en tout cas, Dortmund, sur du temps long, ce n'est pas forcément une bonne affaire, parce qu'il y a 5 ans, la valeur était au-delà des 9 euros, elle est à 4,16 euros.
Mais ça, c'est plus...
Donc, il vaut peut-être mieux faire du pari sportif que d'acheter des clubs de foot, Julien.
Oui, c'est un peu ce qu'on sait. Il y a un article de Sabrina Sagui très détaillé qu'elle avait fait il y a quelques temps, où elle expliquait qu'en fait, c'est quand même à réserver aux fans, hein, parce que c'est très volatile, ça dépend des résultats sportifs, ça dépend des transferts, si vous voulez. Et aussi, c'est tout bête, hein, mais si vous avez un joueur clé qui est blessé, l'action risque de souffrir aussi. Donc, à réserver vraiment aux fans.
Puis, c'est des problèmes aussi de liquidité sur les small et mid cap, hein, puisque c'est des petites valeurs. Hein. Là, c'est moins de 500 millions de capitalisation boursière. Dortmund à Francfort, avec donc un titre qui prend 6% après la victoire hier face au PSG 1-0.
Si 1-0, oui. Et le PSG qui tape 4 fois les poteaux.
Dommage. Bon, dernier mot quand même aujourd'hui, Julien, sur une autre publication, parce que décidément, c'est jour férié, mais il y a des entreprises qui ont décidé de choisir cette date pour sortir leurs résultats. En dehors de Alstom, on a également Ruby, hein, qui a publié ses résultats. Qu'en pensez-vous, sachant que là aussi, on a des résultats qui sont au-dessus des attentes?
Alors, désolé, Étienne, moi j'ai justement un chiffre d'affaires qui est un peu juste. Je suis navré. Bon. Je suis navré. Et Odo qui parle d'une publication mitigée selon les différentes activités, que ce soit, si vous voulez, en fait, la distribution de produits liquides, tout ce qui est bitume, lubrifiant, fuel, où les volumes ont progressé, mais la marge unitaire a reculé. Vous avez aussi tout ce qui est l'acheminement, en fait, de pétrole par voie maritime, les approvisionnements, ce qu'on appelle, disons, support et services, où là encore, le chiffre d'affaires a baissé, les volumes aussi. C'est dû à une base de comparaison élevée. Donc, c'est une publication qui n'est pas très bien reçue. Ça ne change pas vraiment l'histoire de Ruby. Mais ce qu'on regarde surtout chez Ruby, c'est la bataille actionnariale. Parce que vous savez que qui est entré au capital récemment?
Vincent Bolloré.
Tout à fait. Il a pris plus de 5%. Et ça, si vous souvenez bien, ça avait porté la valeur. D'ailleurs, Ruby, c'était la plus forte hausse du SBF 100 au premier trimestre, hein, plus 45%. Pour une raison simple, c'est que Vincent Bolloré, il est connu pour avoir le nez creux dans ses participations minoritaires. Et même quand il perd, il gagne. L'exemple que je donne toujours, c'est Ubisoft. Vivendi voulait racheter Ubisoft, ils n'ont pas réussi, ils sont sortis, mais ils ont fait une sacrée plus-value en sortant.
Un titre qui gagne 37% depuis le début de l'année, avec donc l'intérêt spéculatif qui revient sur Ruby. Et en effet, la valeur qui perd du terrain aujourd'hui, moins 3,6% pour Ruby, valeur typique de rendement avec plus de 6% de dividendes qui est détaché chaque année. Merci beaucoup Julien pour cet éclairage sur les différents dossiers, sur Ruby, sur BMW, sur la bourse d'Amsterdam qui a touché un record historique aujourd'hui, sur le CAC 40 GR, dividende réinvesti qui est sur des plus hauts, quand le CAC 40 traditionnelle de son côté est à 110 points de son record historique à 8144 points. C'est une hausse de 0,8% net surperformance du CAC 40 par rapport à Wall Street, puisque depuis l'ouverture les trois indices américains ne font pas grand chose. Le Nasdaq perd 0,1%, le S&P est stable, quand le Dow Jones de son côté grappille 0,2%. On reviendra bien sûr sur ce dossier Alstom qui prend plus de 7% dans On refait la séance avec Thibaut François, avec les équipes de Zone Bourse, Franck Morel qui sera avec nous à partir de 17h30. Faut-il revenir sur ce dossier Alstom avec la nouvelle direction après les résultats, avec l'augmentation de capital qui est en cours? On répondra à cette question. Et puis on reviendra également sur les nombreux records qui ont été touchés en Europe aujourd'hui en bourse. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, il sera 17h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.